Bonjour, chère auditrice, cher auditeur, nous voici repartis de nouveau. Escalade d'une année qui vient de s'ajouter à notre calendrier de travail, c'est un nouveau départ dans le tumulte d'une année qui se prolonge déjà difficile. Difficile, malheureusement, en absence de la bonne volonté. Bref, donc, c'est la coutume et au nom de toute l'équipe du mouvement Action Justice, au nom de tous ceux qui espèrent qu'un jour nous serons tous égaux devant la justice, je vous souhaite une bonne année, de la santé et du courage, surtout pour affronter les moments pénibles. Maintenant, ce souhait est destiné pour tous ceux et ceux qui partagent une conscience collective vivante. Sinon, pour le reste, on dit plutôt bonne continuité. Donc ce matin, nous allons faire un petit tour sommaire dans les coulisses de la déontologie policière, une institution qui existe depuis 20 ans. Donc on parle d'un tribunal administratif spécialisé qui a pour fonction d'assurer la protection des citoyens dans le rapport avec les policiers. Vous allez voir pourquoi. 58% des plaignants, des victimes d'abus d'autorité policière et d'abus, désistent et abandonnent leurs plaintes. Vous allez voir que depuis 20 ans, date de son existence, et cette institution n'a pas pu réaliser 5% pour ses objectifs. Vous allez voir aussi que c'est un vrai trou de gaspillage public. Et pourtant, elle reste aussi importante parce que avant d'être mise sur pied, c'était vraiment le vrai bordel. Enfin, nous allons jeter un coup d'œil rapide, un rappel important pour nous, chers citoyens, nous le public, pour savoir que nous avons encore du travail à faire. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face aux institutions judiciaires. Nous croyons sincèrement que l'implication des citoyens est un atout pour l'avenir de notre société. Voilà pourquoi, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons à nous rejoindre, chacun avec l'intérêt qui porte à la justice, nous pouvons ensemble modifier beaucoup de choses. Pour nous rejoindre, 514-273-4302, je répète, donc 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmaj-quebec.com, info@commercialmaj-quebec.com. Restez à l'écoute, après notre thème musical, nous reviendrons à notre sujet d'aujourd'hui, la déontologie policière après 20 ans d'exercice, succès ou échec.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, vous savez peut-être que jusqu'à la fin des années 1980, un citoyen qui voulait se plaindre de la conduite d'un policier devrait s'adresser au poste de police concerné, ou bien à la commission de police de Québec. Bref, c'est le grand, c'était le grand désastre. Et c'est comme si vous allez se plaindre d'un criminel à un autre. Si vous protégez un criminel, c'est parce que vous l'êtes aussi, hein. Et ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, dans cette époque, les avis policiers étaient désastreux, au point que le gouvernement lui-même a senti l'urgence et la nécessité de la réforme du système. Qu'est-ce qu'une réforme ? C'est simplement repartir tout de nouveau. Donc, une réforme est alors intervenue pour proposer des mécanismes de soutien, d'encadrement et de surveillance de l'exercice de la fonction de policier. Attention, quand je dis policier, cela ne veut pas dire uniquement les patrouilleurs, hein, mais tout le corps policier. Parce que ceux qui sont en cravate, ils ne sont pas exclus. Ils sont même des fois encore pires. Donc la réforme mise sur pied apporte un changement capital qui est le commissaire à la déontologie policière. Et ce comité constituait le guichet unique pour recevoir les plaintes des publics. Et pour la première fois dans l'histoire du Québec, nous obtiendrons finalement un code de déontologie des policiers du Québec applicable à tous les corps de police. Alors qu'avant 1990, 60% du corps policier ne dispose pas d'un code de déontologie pour l'air policier. Ça veut dire que c'était un peu l'anarchie, si vous voulez. Chacun avait sa propre musique et sa propre danse. Autrement dit, on ne juge pas nécessairement, la même chose, et ce même si les faits sont identiques. Et je préfère ne pas vous parler du climat qui régnait dans les casernes, dans ces postes de police, dans ces quartiers de la police dans ces années-là. Vous savez sûrement tous que le comité de déontologie policière est un tribunal administratif, hein, qui, selon ses principes, rend des services aux citoyens du Québec. Il est doté d'un code de déontologie des policiers du Québec qui est entré en vigueur en juin 90, et ce fameux code va déterminer les devoirs et les normes de conduite applicables à l'ensemble des policiers, constables spéciaux ou autres dans leur rapport avec le public, dans l'exercice de leur fonction. Mais qu'est-ce qui va apporter ce code de nouveau au public? Eh bien, le code vise principalement à assurer une meilleure protection des citoyens. Le comité a comme rôle de recevoir et d'examiner les plaintes formulées contre les policiers. C'est aussi l'instance devant laquelle les policiers sont tenus de répondre des manquements qui leur sont reprochés. Attention, nous sommes toujours dans la théorie, hein, donc, qui est d'ailleurs alléchante à Duguisté, et personne jusqu'à là ne peut remettre en cause le principe de ce code de déontologie. Mais son application est malheureusement qui fait défaut. Vous allez comprendre plus tard pourquoi ce code fait défaut malgré toutes les bonnes fois du monde. Il faut souligner aussi que dans cette réforme qui a mené une légère amélioration au système, les policiers ont l'obligation d'aider les plaignants à formuler leurs plaintes. Si un policier vous écrase le visage avec des souliers par exemple, vous pouvez aller à un poste de police de votre choix et les policiers sont obligés de vous aider à formuler votre plainte, à vous apporter tout le nécessaire pour que votre plainte arrive à destination. La réforme oblige, ou plutôt elle avait obligé depuis, même les policiers à acheminer votre plainte au commissaire de la déontologie policière s'il le faut. Et ça me fait vraiment rire, et en même temps, ça me fait penser à l'article 260 de la loi sur la police qui prévoit que tout policier doit informer son directeur du comportement d'un autre policier susceptible de constituer une infraction criminelle. Donc cela veut dire que tout policier doit dénoncer son collègue qui a commis une infraction criminelle ou autre vis-à-vis d'un citoyen. Savez-vous combien de cas ont été dénoncés depuis des années? Moi je peux vous dire, 3, 4. Les policiers qui ont dénoncé leurs collègues parce qu'ils ont jugé grave leur infraction, je dirais peut-être 3, mais 3 des 4 sont congédiés de leur fonction. Ici, mes chers citoyens, la tolérance est zéro et on ne joue pas avec ça. La règle dans le camp, policier est la suivante. À tort ou à raison, il faut toujours appuyer votre collègue. Le code de la déontologie policière, la loi sur la police, le code criminel, tout ça, ben, qu'il va au diable si vous voulez. La règle reste toujours la même. Un collègue passe toujours avant tout. Nous sommes aussi bien informés que la quasi-totalité des citoyens victimes que se présentent au poste de police pour changer ou pour chercher de l'aide et l'encadrement afin d'acheminer une plainte au commissaire à la déontologie policière désistent rapidement. Ils ne reparlent plus de la poursuite. Vous voyez que nous ne sommes pas encore rendus au code et à son application, que déjà des centaines et des centaines de plaintes sont mises à la poubelle. Et pourtant, l'application de ce code de déontologie à la lettre pourra rendre un immense service au code policier, à condition que son application sera mise en œuvre. Vous devrez comprendre que chaque fois qu'une personne du corps policier est sanctionnée selon la gravité de ses infractions, c'est une prévention au premier plan, un avertissement à d'autres policiers qui ont tendance à commettre des infractions à l'encontre de la loi et des règlements. C'est rendre un service considérable à cette fonction honorable d'être agent de paix, protection publique, l'ordre et non le désordre. C'est aussi préserver une image et un climat de confiance. Chers auditrices, chers auditeurs, de ce fait, l'objet réel de cette institution, ce n'est pas simplement que le citoyen devra se sentir en sécurité face aux différents corps policiers dans le cadre de leur exercice de la fonction, mais encore mieux, le corps policier se rendre compte qu'il existe bel et bien une surveillance accrue qui guette sérieusement et continuellement le travail des policiers. Et dans ce sens, il faut que le corps policier pense deux fois avant de poser un geste à l'encontre de sa fonction et finalement d'abuser de son pouvoir, de son autorité. On constate chez certains de nos policiers et même d'enquêteurs une paralysie au niveau de la pensée. ils agissent aveuglément, sans aucune retenue. C'est juste plus tard, peut-être, qu'ils réalisent l'ampleur de leurs dégâts, qui peuvent se rendre, bien sûr, jusqu'à l'irréparable. Et avant de se lancer dans l'irréparable, chers citoyens, on va d'abord faire une petite annonce, une petite pause musicale, et on va revenir avec notre sujet d'aujourd'hui.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler le cerf-volant. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Disons pourquoi pas. Il y a la la la. Si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas. Distance, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Rebonjour chère auditrice, cher auditeur. Nous avons dit que certains policiers peuvent se rendre à l'irréparable. L'irréparable, c'est vraiment triste. Et vous allez peut-être aussi me dire, mais monsieur, la déontologie policière est mise sur pied justement pour faire réfléchir, si vous voulez, et contrôler la qualité des services du corps policier. Je vais vous dire encore mieux. L'État verse 2 millions de dollars par année pour cette institution. 2 millions de dollars de vos poches, vous les contribuables. Cette somme est versée pour votre protection contre les abus du policier. C'est ça qui est supposé de vous protéger. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je vous assure d'abord que les écrits, les rapports du comité de la déontologie policière, chaque année traduisent et justifient ces dépenses comme il faut. À lire, vous allez trouver tout ça à merveille, mais pour mieux comprendre la réalité de ce théâtre, il faut soit que vous avez fait l'objet d'une plainte au niveau de cette institution, ou bien vous devrez attendre d'être victime d'abus policiers, ou simplement accompagner un plaignant dans ses démarches devant le comité. Assurez-vous, chers citoyens, vous serez plutôt surpris. 2 millions de dollars chaque année versés pour le bon fonctionnement de cette institution. Une somme d'argent assez considérable qui ne fait malheureusement que assurer le confort de quelques fonctionnaires qui sont définitivement détachés de la vie courante des citoyens. Ils sont loin du terrain et des pratiques courantes exercées par nos agents de la paix. Et quelle paix ! Bref, 2 millions de dollars par année sont gaspillés pour assurer l'existence d'une roue qui tourne dans le vide. Vous savez sûrement aussi que le comité de la déontologie policière existe depuis 20 ans. 20 ans et avec un budget croissant chaque année et qui n'a pas pu malheureusement réaliser 5% de sa mission. 20 ans est une durée assez suffisante pour éradiquer d'une manière définitive de notre carte l'abus de pouvoir, de l'autorité de nos policiers. Une durée assez suffisante pour que le peuple se sente en sécurité face aux agissements barbares de certains de nos policiers. Le problème est que le nombre de ces policiers, ces enquêteurs, ne cesse de s'augmenter, et davantage chez les jeunes policiers. Le rapport annuel de gestion 2009-2010 du comité de la déontologie policière nous apprend que le taux le plus élevé de reproches formulés par les plaignants vise au premier lieu l'article 5 et 6 du code de déontologie. Et je cite, hein, « Donc le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. » Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Fin de citation. Le rapport nous informe que 48,3% et 32,5% des plaintes sont de cet ordre. Attention, hein, ça c'est le rapport, la réalité. Mes chers citoyens, reste toute autre chose. Alors imaginez-vous, chère auditrice, chers auditeurs, 20 ans après l'existence de cette institution bidon, on parle encore d'éviter toute forme d'abus d'autorité. 20 ans, ce n'est pas assez pour que nos policiers fautifs comprennent que l'abus d'autorité est rejeté dans toutes ses formes. 20 ans d'éducation et le rapport 2009-2010 vient nous informer que nous sommes toujours dans cette première phase. Celle d'expliquer au policier qui ne devra, pas abuser de son autorité. 20 ans. Et nous sommes encore au point du départ. Il est où le travail de ce comité de meurtre? Vous savez qu'il suffit 6 mois d'entraînement. Il suffit vraiment 6 mois d'entraînement pour dresser un chien de garde. 6 mois et le chien sera apte à la fonction. L'autre fois, un non-voyant me disait que l'entraînement et le dressage de son chien a duré presque 1 an et depuis 15 ans après, il n'a jamais eu de problème de comportement avec son chien. Alors que 20 ans n'était visiblement pas assez à notre commissaire de la déontologie policière afin de mettre fin ou ralentir les abus de pouvoir de nos policiers d'une manière considérable. Enfin, le résultat demeure toujours décevant. 2 millions de dollars. Vous voyez que l'État est généreux avec cette institution, mais pourquoi ? Je vais quand même vous faire une confidence, à titre d'exemple simplement. Le mouvement Action Justice, dont je œuvre à titre de bénévole depuis 5 ans, un organisme qui a été mis sur pied par des citoyens, suite à un non-sens du réel, des citoyens qui ont jugé urgent et indétournable leur rôle pour le redressement et la critique de l'injustice. Leur action, bénévole témoigne largement de leur bon foi. Même si aujourd'hui très peu de gens acceptent de travailler bénévole, parce qu'ils ignorent la raison d'existence, hein. Selon moi, celui qui accepte l'injustice autour de lui ne mérite même pas l'existence. Je disais que le gouvernement du Québec avait accepté de verser une subvention pour cet organisme pour assurer le bon fonctionnement. Et pour ce faire, il les a offert combien, à votre avis? Pour les encourager. 2 millions? Non. 1 million? Non. Et qui peut trouver la réponse? Eh bien, écoutez, je vais quand même vous dire la réponse, hein. On part d'environ de 30 000 dollars par année. 30 000 dollars pour leur dévouement et l'acte de leur citoyenneté. 30 000 dollars pour engager une secrétaire, un loyer, frais d'une ligne téléphonique, des réseaux Internet, du matériel du bureau, déplacements et rencontres, frais de rassemblement, préparation de manifs, ateliers pour sensibiliser la population, manuel de travail. Et combien est-il longue cette liste de besoins? Et pourtant, dans le bureau de cet organisme, quand un plaignant se pointe, sa plainte est formulée selon les règles de l'art. Il trouvera tout l'appui nécessaire selon la capacité, même s'il sera déçu malheureusement de la suite du comité. Mais maintenant, revenons à cette subvention de 30 000 dollars et pourquoi le gouvernement avait accepté d'offrir cette somme de misère à 10 citoyens qui consacrent 40 heures de bénévolat par semaine. Ben écoutez, moi je préfère ne pas répondre et de vous laisser le soin de trouver la réponse. Attention surtout, ce n'est pas juste de sauver la face de la démocratie de notre société qui est visée dans ce piège. Cependant, je vous assure quand même, et en absence de volontaires bénévoles et en pleine misère, nous continuons d'espérer que notre contribution donnera un de ces jours des bons résultats. Nous représentons un carrefour de rencontres pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Et combien sont-ils nombreux? Maintenant, vous serez d'accord de partager notre opinion qu'il existe une grande différence entre 2 millions de dollars et 30 000. Il y a forcément dans cet écart un méchant calcul qui dévoile largement une bonne et une mauvaise volonté. Ce n'est pas toujours l'État ou le gouvernement central qui fait défaut, c'est ces gens qui profitent d'une surveillance relâchée qui foutent le bordel. Voilà pourquoi, chère auditrice, cher auditeur, on va d'abord prendre une petite pause et on va revenir à notre sujet. Une publicité, pardon.
Le 12 janvier dernier, la terre tremblait à Haïti. Une catastrophe qui bouleversa profondément la vie et la société haïtienne. En commémoration de ce triste événement et en solidarité avec le peuple haïtien, Radio Centre-Ville présentera mercredi le 12 janvier prochain une émission spéciale sur Haïti, un an après le séisme. Comment va la reconstruction? Où en est la société haïtienne? Vers où s'en va Haïti? A-t-on oublié Haïti? C'est un rendez-vous mercredi le 12 janvier de 16h à 19h30 en français et en créole. Si le sort d'Haïti vous préoccupe, Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Latinordicos, une émission où l'on fait la rencontre d'activistes, d'écrivains, de poètes et autres artistes venus partager leur soif de la révolution. Dimanche, de 11h à 11h30, avec votre animateur Mauricio Durand. Latinordicos, sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. La canción y su autor, una emisión dedicada a la música latinoamericana y española, ainsi que ses artisans. Tous les dimanches de 11h30 à midi sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Je vous y attends.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être. Radio Centre-Ville vous sert un savoureux cocktail musical. Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
« Donc, chers auditrices, chers auditeurs, je disais que quand la surveillance est relâchée, c'est toujours, bien sûr, le bordel. Donc, c'est pour ça, voilà pourquoi j'insiste et j'insisterai toujours de vous inviter, chers citoyens et citoyennes, de vous remettre en question votre rôle en tant que citoyen, votre devoir envers cette société qui est avant tout la vôtre. Vous devez planifier un espace de temps pour dire non aux injustices, un espace de temps, et afficher votre solidarité avec ceux qui attendent votre appui, sans aucune attente. Sinon, la satisfaction collective. C'est vrai que nous sommes devant une société corrompue, un gouvernement affaibli par ses incompétences et qui tente d'aller constamment vers nos portefeuilles pour redresser les conneries des autres. Mais est-ce une raison de laisser le bateau couler sans rien faire? N'oublie pas que nous vivons sur ce bateau. Écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons quand même faire une pause musicale et on va revenir avec vous pour le reste de ce sujet.
Toi qui me croyais vidé sans cœur, ton visage je le connais par cœur. J'ai pas osé car j'ai eu peur de le dire, m'aurait porté malheur. T'es mon pire et t'es mon meilleur. Notre histoire est poussée à
Voilà donc, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bref, donc selon nous, le comité de la déontologie policière est un échec total. Donc, et le budget qui lui a été accordé est un fonds public gaspillé. Et ce n'est ni le code de la déontologie qui est entièrement mis en cause, ni la mise sur pied de cette institution. C'est l'impartialité et l'indépendance du comité de déontologie qui est mise en cause. Qui sont réellement les vraies victimes? Je dirais même deux fois victimes même. La grande majorité des victimes, c'est des jeunes de moins de 25 ans. C'est aussi des pauvres marginalisés, noirs, latinos, arabes, des immigrants qui tentent de solder leurs pieds par terre, des itinérants en souffrance constante de la vie, des gens qui n'ont pas de voix, pas de statut, limités pour affronter l'arsenal de cette institution. Ces gens-là, tellement préoccupés par la misère de cette putain de vie, qu'ils accepteront le tort, l'injustice, la dégradation constante, puisqu'ils savent que leur voix n'atteint en aucun moment la raison. Donc ils demeurent des cibles faciles à la soif des abuseurs du pouvoir, de l'autorité, si vous voulez. Écoutez, la dernière fois où j'avais accompagné une victime dans une première rencontre à la déontologie policière, le policier en question qui faisait l'objet de la plainte arrivait, accompagné d'un représentant de la fraternité policière, bien sûr, et au cours de l'exposé de la victime, il s'est soudainement trouvé dans un état de panique. Alors, je parle du policier, il était vraiment mis au pied du mur. Et il n'avait pas apprécié cette confrontation avec la victime, qui était calme, très sage dans la manière d'exposer les faits reprochés aux policiers. Et devant ce spectacle qui a fait rougir le policier, le représentant de la fraternité policière, lui, quasiment ordonné d'être calme. Il a vraiment, avec ses deux mains, il lui fait signe. Il fait signe au policier de rester calme. Et personne ne pourrait même mettre en doute la parole de la victime. En l'écoutant expliquer en détail l'agression du policier à son endroit, vous ne pouvez que sous-estimer cette ordure de policier qui est en face de vous. Mais le représentant de la fraternité policière souriait presque à chaque intervention des plaignants. Savez-vous pourquoi ? Parce que le policier en question, il était à sa première infraction. Il ne connaissait pas tous les rouages du jeu. Et le représentant de la fraternité policière, non, lui, il savait très bien qu'il s'agissait simplement d'un théâtre, quoi. Même si les faits reprochés à ce policier étaient très sérieux et que la version des plaignants était forte, convaincante, résultat, écoutez, quelques jours après, le plaignant m'a appelé pour m'informer qu'il venait de recevoir que sa plainte était rejetée. Rejeté, mes chères auditrices, chers auditeurs. Rejeté. Bien, nous avons réécrit au commissaire pour la réouverture de ce dossier, pardon, mais la règle est toujours la même. Refus. Refus après un refus. Parce que le commissaire de la déontologie policière, pour lui, un policier, c'est le divin. C'est l'irréprochable. Il ne peut pas, lui, commettre d'infraction, ni de crime. C'est le parfait. Savez-vous, mes chères auditrices, chers auditeurs, que dans les rangs des policiers, il y a plus de criminels que dans la société civile. J'aurai l'occasion sûrement de vous faire une émission ou deux sur cette réalité. Maintenant, la mission de cette institution qui est la déontologie policière, et d'offrir aux citoyens la possibilité de faire valoir leurs droits. Et je me pose la question, de quel droit s'agit-il ? La réponse, c'est le droit du rejet, le droit du refus, le droit de l'humiliation. Savez-vous combien de plaignants avaient désisté, abandonné ces démarches devant la comité, devant le comité de la déontologie policière? Eh bien, le rapport 2009-2010 ne dit 55%. Et moi, je peux vous dire, il y a au moins 75%. Désisté, hein, abandonné, hein. Pourquoi? Parce que ces gens ont vite compris l'inutilité de leur démarche. Ça sert absolument à rien d'aller se plaindre à la déontologie policière. C'est un vrai bordel. Par contre, si vous êtes monsieur Pierre-Carl Pilado, par exemple, oui, vous pouvez se présenter devant le comité ou devant le commissaire. Vous avez plus de chances. Mais assurez-vous que monsieur Pilado ne s'adressera jamais au comité de la déontologie policière, parce qu'il ne sera jamais victime. Et si ça s'arrive, ben il va plutôt tourner vers la cour pour s'enrichir. Ben écoutez, elle est où l'égalité devant la justice? L'égalité devant la justice, elle est où? Laissez-nous faire une pause musicale, puis on va finir.
Compris que les années ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans le 20 septembre. Que chaque jour des hommes s'autodétruisent à la hache. Et pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie, I'll join everyone. When I die, these feet carry me far. Oh, my body, oh, so tired. Mouth is dry, hardly speak. Spirit, rise in me. I swear, forever is just a minute to me. And I'll take everything.
Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
In this life,
dans cette vie,
I'll join.
Y allait pas, d'où venait le mal dans nos yeux. Que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes. Que tous les jours des amis meurent au cachot. Comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud. J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner. Que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer. Que les voisins c'est pas les filles d'à côté. Que dans le pays des droits de l'homme des familles vivent à l'hôtel. Comprenez le poids des mots, des fois la vie fout le cafard. Les voleurs se font pincer mais les violeurs on le bat pas. Que dans la vie j'ai toujours senti ce gêne. À quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie,
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc, et encore, est-il vrai que nous sommes tous égaux devant la justice? C'est une question, je vous laisse. Hein. Une victime me disait un jour, Monsieur Zitouni, les agents Sylvain Fouquet et Giovanni Stanté de la SPVM qui ont battu à mort Monsieur Jean-Pierre Lesotte, le commissaire de la déontologie policière a reconnu leur faute, hein, et de ce fait, il les a suspendus 25 jours sans solde. 25 jours sans solde. 25 jours sans solde pour les policiers. Et pour eux, je vous assure que c'était inacceptable. Hein. Parce que je vous ai dit d'avance que ces gens-là sont irréprochables. Hein. C'est le divin. Hein. Voilà pourquoi ils sont retournés vers le tribunal qui les a blanchis. Quand ce n'est pas le commissaire de la déontologie policière, ah ben c'est le tribunal. Hein. Il y a toujours un moyen pour en sortir, pour ces gens-là. Mais vous et moi, aïe, aïe, aïe. Donc voilà que le rapport 2009-2010 reprend, année après année, cette vieille chanson qui parle des valeurs, considération, respect, clientèle qui est au cœur de toutes les actions, donner des services d'un niveau élevé de qualité. Enfin, tout le bordel que vous voulez. Hein. Écoutez la dernière plainte que nous avons formulée à la fin de 2010 et le début de cette année. Il s'agissait, comme vous l'avez bien suivi, j'imagine, le cas de cette dame qui habitait avec son fils âgé de 32 ans et qu'elle avait été malchanceuse d'avoir tombé sur une ordure de policier qui lui avait écrasé le visage avec ses souliers. Je dis bien avec ses souliers. Hein. Dans le cas de cette femme, et après avoir acheminé une plainte à la déontologie policière, elle reçoit, elle aussi, un avis de réconciliation. Vous savez peut-être aussi que ce fameux projet qui date depuis 20 ans impose aux citoyens le processus de réconciliation. Vous allez simplement dire au policier, par exemple, qui vous écrase le visage avec ses souliers, avec ses pattes, « Monsieur le policier, j'accepte la réconciliation. » Et vous lui tendez la main, le dossier est fermé, ils vont vous expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu. Et ils vont vous assurer que si le cas se répète, de ne pas hésiter de se plaindre de nouveau. Imaginez-vous, chers citoyens, qu'on vous écrase le visage avec des bottes. Et puis on vous demande quelques jours après, acceptez-vous une réconciliation? Je suis pas mal certain que le Christ en personne, symbole du pardon, s'il était parmi nous, n'acceptera pas de telle offre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'allez pas aider ce policier avec votre pardon de merde. Il faut une sanction de taille pour l'amener à réfléchir sérieusement, à considérer le respect de l'autre, le respect de la fonction. Parce que personne parmi nous n'acceptera un tel traitement, et encore moins pour sa mère ou à sa grand-mère. Il fallait aussi voir la réaction de cette dame quand je lui avais parlé de réconciliation. Elle est devenue blanche comme un drap. Hein. Et en s'appuyant sur une chaise, elle me disait « Mais elle est où la justice dans ce pays, monsieur ?» Et j'ai voulu lui dire qu'il n'y a pas de justice. Et qu'il n'y aura jamais de justice pour des gens comme vous, madame, comme moi. Nous sommes trop dispersés, trop faibles pour faire valoir nos droits. Qui a réduit le délai de la prescription à un an pour porter plainte en matière de déontologie policière? Qui? S'il y avait réellement une bonne volonté, la durée pu être prolongée de 2 ans à 5 ans et non pas de 2 ans à 1 an. On recule, chers amis, on recule. On n'avance pas, mais on recule. Une personne accusée à tort, par exemple, détenue en prison, injustement des mois, relâchée pour comparaître. L'enquête préliminaire dure 2 ans, par exemple, en moins. Une fois acquitté de toute accusation, il formule une plainte en déontologie policière, la plainte est rejetée. Faute de quoi? Faute de prescription, monsieur. Il fallait pourtant attendre son acquittement qui prouve que les enquêteurs, les policiers ont commis une grande erreur. Non, monsieur. Le délai de la prescription du but à partir de la naissance des faits. Voilà un exemple où la déontologie policière, où le code de la déontologie policière protège les criminels à la place de les punir et d'éviter à d'autres le calvaire de l'injustice. Mes chères auditrices et auditeurs, nous aurons sûrement la chance d'ouvrir d'autres plis cachés de cette institution qui ne fait que honte, puisqu'il reste encore des choses à dire, trop de choses à changer. Mais sans vous, vous, nous allons toujours rester à notre point de départ. Aujourd'hui, c'est quelques mots autour du rôle des commissaires de la déontologie policière, une institution, à notre avis, qui ne remplit pas sa tâche et qu'elle devra s'effacer pour laisser sa place à la société civile qui s'en équipera plus tôt. Nous allons faire une petite pause musicale et on va revenir avec le mot de fin. Merci.
Juste au bord de la terre. Et j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais l'amour, je ne sais pas. Je voulais juste marcher chez moi. Ce que je fais l'amour, je sais pas, je pense à toi depuis le million. Tes mains de nuit sous la paupière, le monde de forêt abattu. Même sous la mitraille et le fer, moi je n'aurais rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais l'amour, je ne sais pas. Je voulais juste marcher, je crois. Ce que je fais l'amour, je ne sais pas. Je pense à toi.
Donc voilà, chers auditrices, chers auditeurs, nous voici arrivés au thème de notre émission d'aujourd'hui. Et permettez-moi de vous remercier d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à Mario Longuet, notre technicien de son. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis à vendredi prochain, à la même heure, et à bientôt.
Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Wow! Faut pas manquer les dimanches soirs à seulement 12$ à Ski Mont-Saint-Bruno à compter de 17h durant tout l'hiver pour du ski ou de la planche à neige. Ski Mont-Saint-Bruno!
Qui a voté? Qui vote? Qui votera? Pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matins, à 8h.
Voyage musical, une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.